Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer un nouveau format pour Dream Team, la Ligue des futurs champions. Et voilà l'idée. Derrière Decathlon, l'équipe Nike, beIN Sport, MediaPro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîtes qui deviendront les champions de demain. Sur un format Pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leur ambition. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des futurs champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des futurs champions. Aujourd'hui, un épisode qui va sortir de l'ordinaire. On va parler d'un maillon essentiel de la performance dans le sport de très haut niveau, une profession dont on entend beaucoup parler lorsque les grands sportifs se blessent gravement et qu'il faut vite et bien les réparer. Aujourd'hui, j'ai Alexandre Hardy, qui est chirurgien orthopédiste à la Clinique du Sport. La Clinique du Sport, c'est une des grandes institutions vers laquelle les grands clubs et les grands sportifs se tournent lorsque les athlètes ont un petit souci. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu ce que tu fais et un peu ton marché. Parce qu'en fait, la Ligue des futurs champions, c'est un peu expliquer les solutions qu'apportent les différentes invités et le marché qu'ils adressent. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter ton parcours un peu et ton job actuel?
Oui, alors donc je suis Alexandre Hardy, je suis chirurgien orthopédiste, donc en gros chirurgie des articulations et des os. J'ai fait une formation de médecine à Paris 6, à la Pitié-Salpêtrière. Je me suis formé donc un petit peu partout en Île-de-France et j'ai passé quasiment un an de ma formation en Nouvelle-Zélande, à Auckland plus précisément, dans justement un grand centre de chirurgie du sport qui s'appelait le Adidas Sport Center et qui était reconnu comme un FIFA centre d'excellence.
Ok. Et bon, toi, tu as un parcours de médecine, en tout cas, dans son début assez classique. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller prendre cette voie et d'aller dans le sport, finalement?
Moi, déjà, il faut savoir que, un peu comme toi, j'imagine, au niveau de la sensibilité, j'ai toujours été attiré par le sport. Donc, assez rapidement, je me suis retrouvé avec un petit peu trois options dans ma tête, à savoir globalement la kinésithérapie, la médecine du sport et la chirurgie orthopédiste, qui sont globalement les trois spécialités qui touchent le plus, on va dire, aux pathologies sportives. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage de quelques mois au PSG assez tôt, quand j'étais encore en formation en tant qu'interne, où j'ai pu finalement voir un petit peu ce que c'était que la médecine du sport, ce que c'était que la kinésithérapie du sport. Et puis j'avais la chance d'avoir un père qui était chirurgien orthopédiste, donc ça, j'avais déjà une bonne idée de ce que c'était. Et puis finalement, en fait, je me suis aperçu que ce qui me convenait le mieux, en tout cas dans l'approche et dans l'équilibre entre la relation avec le patient et quand même l'approche assez technique, c'était quand même la chirurgie orthopédique. Okay. Il faut savoir qu'en France, la chirurgie orthopédique du sport, ce n'est pas une classification très habituelle. En France, on a plutôt tendance à classifier les chirurgiens orthopédistes par articulation, c'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de chirurgiens de l'épaule, de chirurgiens du genou, etc., qui vont faire autant des ligaments croisés que des prothèses de genou. Là où, par exemple, en Allemagne ou en Nouvelle-Zélande, la sélection, elle se fait plutôt justement sur l'approche chirurgie sportive ou chirurgie prothétique, et enfin chirurgie traumatologique. Donc en France, ce n'est pas une dénomination qu'on a trop l'habitude de voir.
Ok. Et en fait, dans ce format d'interview, souvent je demande aux invités le problème qui parviennent à résoudre sur leur marché. Alors toi, c'est, tu résous plein de choses, mais en fait, si tu devais citer un peu les principales use cases qui t'arrivent non pas sur ton bureau, mais sur ton billard, c'est quoi un peu les typologies de choses que tu résous?
Alors, en gros, nous, notre rôle, ça va être de résoudre en gros les pathologies sportives survenant chez les athlètes. Donc, celles déjà requérant une prise en charge chirurgicale, parce que c'est pas du tout la majorité. Donc après, on a évidemment le trait médiatrique, la trait médiatrique rupture du ligament croisé antérieur, mais il y a également les notions d'instabilité d'épaule et d'instabilité de la cheville qui sont globalement le gros de mon activité. Un des trucs qui est très important de comprendre, c'est que la prise en charge de ces pathologies pour nous, et en tout cas à mon avis, c'est comme ça qu'elle doit être pensée, elle ne relève pas simplement à reconstruire le ligament croisé du patient. C'est-à-dire que, en gros, les résultats d'une reconstruction du ligament croisé, c'est-à-dire si on se contente de reconstruire le ligament croisé du patient, il y a vraiment toutes les chances que le résultat il soit très moyen, voire très mauvais. C'est-à-dire que, en fait, la chirurgie du ligament croisé, avant la reprise du terrain, c'est peut-être un cinquième ou un quart du résultat final. C'est-à-dire qu'il va y avoir derrière un investissement important de la part du patient dans sa rééducation. Et si cet investissement il n'est pas bon, bah, le résultat il sera mauvais et le patient sera déçu. Et donc, ça fait partie aussi de notre rôle d'accompagner les patients dans leur récupération et dans leur rééducation jusqu'au moment où effectivement on va leur autoriser via un certain nombre de tests la reprise de leur activité sportive en toute sécurité.
Et ça, la rupture des ligaments croisés, c'est le plus gros de tes interventions, c'est ça ?
Probablement, oui.
Ouais. Et donc, une surspécialisation, alors je sais que tu fais pas que du genou, hein, vous faites de tout à la clinique de sport, vous êtes un peu les mécaniciens hors pair des athlètes qui sont un peu des F1, quoi, des Formule 1. Qu'est-ce qui justifie qu'une institution comme la clinique du sport voit le jour ? Est-ce que la surspécialisation est nécessaire pour adresser le problème des ruptures des ligaments, des instabilités d'épaule, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a comme rationalité derrière à construire une institution aussi spécialisée ?
Alors, je pense que c'est en fait la grande force hein, de la clinique du sport hein, et du coup de la chirurgie du sport qui en fait partie. La grande force de la clinique du sport, c'est le côté pluridisciplinaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on reçoit les malades, on est capable de leur proposer une IRM dans la journée. On a des médecins du sport qui sont disponibles pour voir les patients dans la journée. On a des équipes de kinésithérapeutes qui peuvent voir les gens rapidement. Enfin, je pense que c'est vraiment ça la plus-value de ce type d'établissement. Quand on va voir un chirurgien qui travaille de façon isolée, c'est sûr que ça va être plus difficile pour lui d'organiser une IRM rapidement, d'avoir un réseau de soins à qui il va pouvoir adresser l'athlète rapidement. Et c'est ça, je trouve, la force de ces grandes institutions, la clinique du sport, entre autres.
Ouais. Et toi, du coup, tu fais partie des 4 associés de la clinique du sport, c'est ça ?
Alors, dans la clinique du sport, il y a, une association de 6 chirurgiens, en fait, dont je fais partie, qui ont fait le choix de s'associer et de travailler ensemble. Moi, c'est vraiment ce qui m'a poussé à les rejoindre. Parce qu'une des grandes forces du coup de cette association, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit 3 fellows en permanence, donc qui sont là pour se former, mais aussi pour nous apprendre, parce que quand on a des fellows qui viennent...
C'est quoi des fellows ?
Alors des fellows, ça va être en fait des chirurgiens qui sont en post-formation et qui vont venir passer 6 mois ou 1 an avec nous, histoire d'apprendre un petit peu nos techniques, mais aussi parfois de nous apprendre à nous certaines choses qu'ils ont vues à d'autres endroits. Mmh. On a notamment actuellement un fellow qui a passé 6 mois à Lyon dans un autre grand centre, et je l'ai avec moi au bloc tous les jours, et j'apprends aussi de ce qu'il a vu à Lyon, c'est hyper enrichissant. Et puis c'est aussi, mine de rien, des personnes qui vont nous aider derrière à mener notre travail scientifique, à écrire nos études, etc. Et ça, c'est aussi un point absolument fondamental, je trouve, de ce groupe de 6 chirurgiens, c'est qu'on a la possibilité, du coup, parce qu'ensemble, on est plus fort, de revoir nos patients, de créer des bases de données, d'évaluer nos pratiques, et du coup, éventuellement, de progresser, d'arrêter certaines techniques qu'on faisait, parce que si on s'aperçoit que les résultats ne sont pas bons, etc., quoi.
Ça, c'est. Je veux bien qu'on approfondisse un peu ce sujet. Parce que du coup, la clinique du sport et toi en particulier, enfin, comme tes associés, vous écrivez beaucoup, vous publiez beaucoup. Oui. Est-ce que ça, c'est un critère de différenciation ? C'est un critère d'excellence ? Parce que je suppose que si Neymar se blesse ou Mbappé se blesse, entre le fait d'aller à la clinique du sport et d'aller voir son médecin, un autre médecin dans une autre clinique spécialisée, qu'est-ce qui fait la différence à part l'entourage, l'agent, etc. Mais est-ce que c'est un critère de réussite, de succès, la publication et l'excellence scientifique?
Alors, la publication, hein, moi, je suis un peu un ayatollah de la publication, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Déjà, un, parce que c'est en cherchant qu'on progresse et qu'on apprend, que, et ça, c'est très rapporté dans les dernières publications, de plus en plus, on se tourne vers des questionnaires qui sont remplis par les patients, c'est-à-dire en gros, où on n'est pas en phase 2 quand ils répondent. Et ça, ça a été montré que ça faisait varier énormément en fait les réponses des patients. Et aujourd'hui, le self-reported outcome, c'est-à-dire les questions répondues par le patient de façon indépendante, montre parfois des résultats qui sont moins bons que ceux remplis par le chirurgien. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment important d'avoir entre guillemets l'humilité d'évaluer de façon objective ces résultats pour toujours aspirer à avoir de meilleurs résultats, adapter ses techniques, etc. Ça, c'est la première chose d'un point de vue un petit peu égoïste. Et après, il y a évidemment faire progresser les autres, parce que quand vous avez une technique et si elle marche très bien, si vous la publiez pas, si vous l'évaluez pas, eh bien en fait personne n'en bénéficie. Et ça, c'est un peu dommage pour la communauté médicale globale. Mmh. Moi aujourd'hui, quand je lis des articles d'autres grands centres de médecine du sport, ça me permet de progresser, ça me permet d'adapter mes pratiques. Mmh. Et ça, c'est une des grandes forces de la médecine aujourd'hui.
Mmh. Bah, c'est l'open data. Finalement, les médecins, ils ont déjà compris il y a bien longtemps, on parle que de ça, l'open data. Mais c'est vrai que vous partagez beaucoup les connaissances, alors qu'en effet, on pourrait considérer que vous avez tout intérêt à les conserver, puisque si vous développez de la connaissance et qu'elle vous sert à être dans l'excellence, on pourrait se poser la question pourquoi vous la partageriez. Mais bon, c'est la culture sans doute médicale. Je voulais un petit peu qu'on traite de la question de la dichotomie entre toi en tant que praticien, réparateur, mécanicien de haut vol, où en fait tu es tenu d'avoir une logique de résultat sur la réparation de ton patient, je suis désolé, toi, je fais des amalgames, versus le club ou même l'athlète qui veut vite reprendre la compétition, mais sur une logique qui est peut-être non alignée avec sa bonne récupération. Comment tu gères ce truc-là? Parce que ça doit arriver souvent.
Ouais, c'est sûr que c'est une grosse, grosse problématique, hein, de la médecine, on va dire, enfin de la chirurgie et de la médecine de, on va dire, très haut niveau, parce que sur le niveau moyen, voire le haut niveau, on a un petit peu moins ce problème-là. C'est sûr qu'il y a notamment des pressions déjà, un, de résultats, donc de retour sur le terrain rapide. Parfois, on a des problèmes aussi de fin de contrat, des choses comme ça, ou alors de gros impératifs avec des championnats ou des coupes, enfin des trucs qui tombent plutôt mal. Mmh. Alors, ça, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec le patient. Il faut, même si c'est difficile, arriver à faire abstraction de la pression du club, parce que finalement, le club, c'est pas lui dont on parle, quoi, même si effectivement...
C'est l'employeur.
Voilà, exactement. Ça reste employeur, hein, c'est de la même manière qu'un employeur pourrait vous dire il faut arrêter de faire des arrêts de travail pour un autre patient. Mm-hmm. Ça doit pas être, à mon sens, pris trop en compte. Ça doit vraiment être une discussion avec le patient. Est-ce qu'on peut autoriser un patient à une reprise un petit peu prématurée en lui expliquant les risques? Oui, ça peut être discuté. Ça reste toujours, hein, le patient, le décideur. Hein. Nous, on est juste là pour lui exposer les risques de chacune des solutions qu'il peut choisir. Et
dans ton expérience, c'est vraiment le patient qui décide ou c'est le club ou l'agent?
C'est plurifactoriel, on va dire. Après, ouais. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous aide beaucoup et qui a fait son apparition depuis quelques années, qui sont en fait les tests multifactoriels de retour au sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, justement, via toujours les publications, hein, on y revient toujours, mis en évidence, hein, des critères de pronostic de retour au sport et de risque de re-blessure faible. Donc, on a développé au fur et à mesure des critères composites de retour au sport. Et donc, aujourd'hui, en fait, le gros avantage de ces critères composites de retour au sport, c'est qu'on peut faire passer ces tests aux patients et avec ces tests, leur dire simplement, bah, écoutez, non, votre genou n'est pas prêt. Et ça, c'est très confortable pour nous parce que c'est déjà c'est robuste scientifiquement. Et en plus de ça, pour le patient, on a moins l'impression que c'est le chirurgien qui décide que le patient ne peut pas jouer. C'est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire que non, c'est les tests du patient qui, pour l'instant, ne lui permettent pas de reprendre le sport. Et ça, ça a vraiment, je trouve, changé la relation qu'on a avec les patients, dans le sens où aujourd'hui, on a ces tests qui nous aident à décider et qui vraiment donnent une réponse par oui ou par non si le joueur peut reprendre son sport sans risque ou pas.
Et je suppose que... Est-ce que vous mesurez les taux de rechute des sportifs que vous avez soignés ?
Bien sûr.
Ouais. Ah oui.
Et c'est fondamental. Hein.
Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est un avantage concurrentiel sans doute assez fort ? Est-ce que un club ou un athlète, c'est un truc qui vous demande combien de fois les mecs ont rechuté et tout ça ?
Ouais. Bien sûr. Ah oui, c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, il faut être capable pour chaque type d'intervention, même chez le non-athlète. Hein. Ouais. Tous les patients aujourd'hui, ils sont de plus en plus renseignés, ils sont abreuvés d'informations par Internet, des informations parfois de qualité moyenne. Aujourd'hui, tout patient, quasiment, quand il veut parler d'une chirurgie, on est complètement sorti de la relation un petit peu patriarcale qu'on avait avant, où on était très directif et on disait bah voilà, c'est comme ça la chirurgie aujourd'hui. Les patients, et c'est très bien, ils veulent comprendre, ils veulent être acteurs de leur santé, et donc ils ont besoin pour ça d'avoir les informations que nous, on a glanées via les publications ou via la lecture scientifique pour les informer et qu'ils soient capables, eux, de choisir le traitement qui leur correspond le mieux.
Dis-moi, quand un athlète de haut niveau, de très haut niveau, parce que c'est beaucoup d'athlètes de très haut niveau que vous gérez, décide d'aller vous voir, c'est quoi les facteurs qui font qu'ils vont voir vous plutôt qu'un autre, c'est du réseau, c'est du bouche à oreille, c'est quoi?
Alors ça, aujourd'hui, c'est pas des données scientifiques, hein, c'est de la perception, des avis, mais moi je trouve que en fait ça dépend beaucoup des sports. C'est-à-dire que aujourd'hui on va dire des réseaux d'adressage préférentiels avec certains sports où globalement on a une relation avec le médecin du club où on sait que voilà on va recevoir les patients quand ils se blessent de ce club-là, etc. Et ça c'est une force parce que du coup c'est toujours la question du réseau de soins, c'est-à-dire que le patient il va rapidement être vu à la clinique, le médecin du sport avec qui on travaille, on sait comment il travaille, on sait qu'il travaille bien. Lui, il sait comment ça se passe, notre chirurgie. Et donc ça, c'est vraiment, il y a peu d'inconnus pour le patient et donc ça permet d'optimiser sa prise en charge. Donc ça, c'est, moi, je trouve, dans un monde idéal, c'est ça qu'on devrait avoir. Le problème, c'est, à mon sens, quand on commence à augmenter un petit peu en médiatisation et donc en enjeux financiers, donc on parle bien entendu de globalement le haut du panier en Ligue 1, où là, c'est beaucoup plus obscur. C'est-à-dire que en gros, immanquablement, le patient va vouloir prendre énormément d'avis. C'est-à-dire qu'il va prendre vraiment énormément d'avis, il va avoir énormément de praticiens. Et là, la décision finale du praticien est plus obscure et parfois plus discutable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit un deuxième, troisième, quatrième avis des patients qui viennent nous voir. Ou par exemple, on va dire qu'ils vont nécessiter une suture méniscale. Voilà, bon, c'est une suture des amortisseurs dans votre genou. Et ça, on sait que, on va dire que ça va le mettre sur le banc du terrain pendant 6 mois. Et par contre, vous avez une autre option qui est de globalement retirer le ménisque. Ça va permettre de retourner sur les terrains beaucoup plus rapidement. Et donc, en fait, on va avoir parfois des chirurgiens qui vont prendre le parti de dire bah, « Écoutez, moi, je propose de vous retirer le ménisque, par exemple. Ça vous permettra d'être sur le terrain au bout de 1 mois et demi à 3 mois. Et donc, forcément, ce sera beaucoup plus rapide. La bonne solution pour le genou du patient, elle passe par la suture. Mais si, on va dire, le chirurgien lui dit « Mais regardez, vous allez reprendre beaucoup plus vite. » Bah, parfois, les patients vont se dire « Ah, bah, c'est génial, allons-y. » Juste parce que le délai est plus court, même si, bah, pour leur genou, c'est une catastrophe. Quoi. Donc ça, c'est, voilà, il y a parfois des choix pas forcément éclairée. Et puis après, et ça c'est le dernier point, mais ça je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, il y a quand même une grosse part de mon coéquipier s'est fait opérer à tel endroit. Et il était content, et du coup je viens vous voir. Et ça, bon, ça c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que si l'autre était content, il n'y a pas de raison qu'effectivement le prochain ne soit pas content.
Cool. Dans la Ligue des futurs champions, là, du coup, je demande souvent à mes invités de nous balancer un fun fact, un chiffre intéressant pour un peu comprendre le marché ou le projet professionnel. Est-ce que tu as des petites anecdotes un peu sympas à nous raconter?
Alors, quand tu m'en parlais il y a quelques semaines, j'en avais pas forcément trop en tête. Et puis en fait, j'en ai vu une récemment qui justement démontre que la prise en charge des sportifs de haut niveau, c'est pas encore complètement ça. J'ai vu récemment là en consultation un patient de 19 ans, ancien centre de formation d'un très gros club de Ligue 1, qui est parti jouer en deuxième division en Espagne. Et donc il débarque tout seul dans ma consultation, donc tu vois, un gamin de 19 ans un petit peu perdu, et en fait il me dit voilà, je joue donc en deuxième division en Espagne, je me suis fait mal au genou. Donc je lui dis d'accord, on vous a fait une IRM? Oui, on m'a fait une IRM. Vous l'avez avec vous? Non, je ne l'ai pas. Ok, vous savez ce que vous avez? Non, je ne sais pas. D'accord, et qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis fait opérer. D'accord. Qui c'est qui vous a opéré? Je ne sais pas. D'accord. Vous avez le compte-rendu opératoire? Non, je ne l'ai pas. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous a fait? Je ne sais pas. Et finalement, je l'examine. On comprend qu'il s'est fait opérer du ligament croisé antérieur. En plus de ça, il a une grosse cicatrice. Enfin, ce n'est pas des signes d'une chirurgie faite par quelqu'un qui en fait beaucoup. Et donc il vient me voir, et donc en gros il me dit je viens vous voir parce que mon agent veut savoir si je peux aller faire des tests en Allemagne le mois prochain. Et donc vraiment je me suis dit mais c'est incroyable, que parce qu'on parle quand même de deuxième division espagnole, c'est quand même un bon niveau.
Ouais.
Voilà. Et la prise en charge est catastrophique, mais catastrophique. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il a, il n'est pas pris en charge, il n'y a pas de kiné, enfin c'est donc, ça m'a un peu remis les pieds sur terre sur le fait que même chez le haut, voire très haut niveau, il y a toujours la possibilité d'être mal pris en charge, et c'est un petit peu inquiétant.
Bon, il peut aller faire ses tests en Allemagne ou pas, ce garçon?
Ah non, il ne va pas pouvoir, non.
Ah, mince.
C'est ça aussi, c'est un message important à faire passer. Aujourd'hui, la reprise du sport après une ligamentoplastie du croisé antérieur, pendant des années, on a dit que c'était 6 mois. Aujourd'hui, on en revient. C'est plutôt 7, 8, voire 9 mois chez le non-professionnel. Au niveau des chiffres aussi intéressants, assez récemment, là, j'ai fait une revue de littérature qui était sur... Parce que, comme je te l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est la notion de l'instabilité. Donc, l'instabilité, en gros, c'est tout ce qui est, rupture du croisé antérieur. Donc, avec le genou, on a... la sensation de déboîtement, donc le genou qui se déboîte et qui se remboîte, quoi, c'est l'instabilité du genou. Après, il y a l'instabilité de l'épaule, bon, ça c'est les luxations antérieures principalement, qui sont assez connues également. Et puis la cheville, qui est très connue, bien sûr, les entorses le plus souvent externes. Et j'ai regardé du coup, parce que je trouvais ça intéressant, le nombre d'instabilités qu'il y avait en France par an. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a 65 000 à peu près ligaments croisés antérieurs par an en France. Il y a à peu près 15 à 16 000 luxations d'épaule, et il y a 2 200 000 instabilités de cheville, donc épisode d'entorse. Et ce qui est très rigolo, c'est que en fait aujourd'hui l'entorse, c'est complètement galvaudé, c'est-à-dire que vu que tout le monde a des entorses, tout le monde dit c'est une entorse, c'est pas grave. Alors qu'en fait, ça fait exactement autant de dégâts dans l'articulation que l'épaule ou le genou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'articulation, que ce soit l'épaule, le genou ou la cheville, entre guillemets, déboîte, ça peut et ça risque de créer des lésions sur le cartilage, ce qui va entraîner en fait un vieillissement accéléré de l'articulation. Et ça, de la même manière, sur le genou, l'épaule ou la cheville. Et ce qui est rigolo, c'est que donc, très rapidement, en fait, les gens qui ont une instabilité de genou dès qu'ils se rompent le ligament croisé, dans, on va dire, les croyances générales, bah, il faut absolument se faire opérer. Et on le retrouve bien dans les chiffres avec plus de 65% des gens qui se rompent le croisé, qui aujourd'hui en France se font opérer, ce qui est possiblement même trop. Mmh. Pour les luxations d'épaule, on est à 52%, c'est-à-dire qu'il y a 52% des gens qui se luxent l'épaule, qui se font stabiliser l'épaule. Et pour l'entorse de cheville, eh ben on est à 0,3%. Ah ouais. Il y a seulement 0,3% des gens qui ont une instabilité de cheville qui se font opérer. Alors on pourrait se dire, bah, c'est parce que peut-être qu'il y a moins de récidive. Bah, pas vraiment, c'est-à-dire que quand on regarde, en fait, le taux de récidive après une instabilité de genou, elle est seulement de 20%, alors que dans la cheville, elle est plutôt aux alentours de 30 à 40%, donc il y a quasiment deux fois plus de récidive que dans le genou, et pourtant, personne ne se fait opérer. Donc,
d'accord. Donc l'entorse de cheville est devenue, tu te casses un ongle, c'est une entorse de cheville, quoi.
Tout le monde en a déjà eu, bah, tout le monde dit, oui, c'est rien, c'est une entorse de cheville, moi aussi, j'en ai déjà eu une, d'ailleurs, on s'en fiche, quoi.
Il y a très longtemps, j'avais lu un super truc qui s'appelait les usages somatiques du corps. C'était un truc de Luc Botanski sur l'appréciation de ses blessures et l'appréciation de son corps.
Ah, bah oui, c'est un peu ça. Hein.
Et c'était un sociologue qui avait travaillé sur ça. Et le fait que, en fait, selon les classes sociales, tu avais une appréhension de ta douleur qui était différente. Mais du coup, je vois aussi qu'il y a aussi. Même des trucs comme ça qui sont un peu caractéristiques et potentiellement dangereux, les gens baissent leur appréciation de la douleur et de la gravité, quoi.
Absolument.
Bref, hyper intéressant. Dis-moi comment vous allez, quand aujourd'hui, donc tu nous as expliqué que tu publiais beaucoup, qu'il y avait un gros partage au sein de la clinique du sport. Est-ce que une clinique du sport et vous, toi et tes associés, vous définissez un espèce de plan d'objectif, d'ambition à plus 5 ans, plus 10 ans? Et si oui, ça ressemble à quoi?
En fait, on a des réunions scientifiques tous les 6 mois. Donc ça, c'est pour l'aspect scientifique où on va définir des axes de recherche, des axes pour revoir les patients, qu'est-ce qu'on veut évaluer, qu'est-ce qu'on veut publier, qu'est-ce qu'on veut tester. Donc ça, c'est tous les 6 mois, on définit des axes. Ensuite, on discute avec les fellows, à savoir un petit peu quelle est leur sensibilité, qu'est-ce qu'ils ont envie plutôt de développer. Donc ça, c'est pour l'aspect scientifique. Et après, pour l'aspect vraiment plutôt, on va dire, institutionnel, on a une réunion par semaine où on va réfléchir un petit peu à comment grandir, comment améliorer notre prise en charge des patients. Ça va de comment mieux leur donner leur papier de sortie à pourquoi ne pas acheter des attelles différentes qui pourraient être mieux pour les patients. Enfin voilà, ça, on a une réunion par semaine pour définir un petit peu ça et gérer un petit peu les problématiques du jour le jour, quoi.
Mmh. Et comment vous appréciez-vous votre performance, votre progression? Enfin, c'est quoi vos indicateurs clés de performance et peut-être, alors là, je te parle de manière très rationnelle et très professionnelle, tes indicateurs clés de performance, mais et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans tout ça?
Très clairement, typiquement, très récemment, un exemple facile, c'est qu'on a évalué, il y a des études australiennes notamment au début qui sont sorties, où en fait ils ont eu l'idée, qui est brillante, hein, de tremper le greffon du ligament croisé antérieur avant de l'incorporer donc dans le genou, dans la vancomycine, qui est un antibiotique, en se disant du coup ça permettra peut-être de diminuer le risque d'infection. Et en fait, ils ont publié une première série où ils ont montré des résultats très encourageants. Et du coup, typiquement, ça, on a publié notre série, nous, où on a évalué ce truc-là. Et ça nous a permis de passer d'un taux qui était relativement faible, hein, d'infection post-ligament croisé. Et là, aujourd'hui, dans notre cohorte, on n'a plus rapporté d'infection depuis qu'on trempe nos greffons dans la vancomycine. Donc ça, typiquement, c'est vraiment un exemple très pratique d'une pratique publiée à l'autre bout de la Terre dans un journal scientifique, où soit vous faites l'effort de lire la littérature et de vous tenir au courant, d'aller en congrès, etc., et du coup d'en entendre parler et donc d'adapter vos pratiques et de faire tremper vos greffons dans la vancomycine, et c'est une plus-value énorme pour les patients, et soit en fait on reste dans notre coin et on n'entend jamais parler et on ne progresse pas, quoi. Okay. Donc ça, c'est sûr que quand on a réévalué et qu'on a vu qu'on n'avait plus d'infection, ça nous a vraiment... Enfin, c'est très plaisant, quoi.
Ouais, ok. Est-ce que parmi les autres indicateurs, peut-être un peu moins factuels ou en tout cas un peu moins chiffrés, aujourd'hui, est-ce que les top players de chaque grande ligue vont voir la clinique du sport plutôt qu'un autre, est-ce que c'est un critère, un levier de satisfaction ou c'est pas du tout le côté un peu fame de, je sais pas, Neymar, Messi, Ronaldo vont voir Alexandre Hardy plutôt que d'aller voir le mec de Sao Paulo, tu vois, est-ce que ça c'est un truc qui vous anime quand même un peu avec tes associés?
Alors. Moi, je n'ai pas encore la chance de voir Messi, Neymar ou Ronaldo, mais c'est sûr que, oui, enfin, moi, c'est sûr que, c'est, enfin, d'un point de vue un peu bête, hein, ça reste quand même un rêve de gosse. Hein, donc, c'est sûr que, enfin, moi, je sais que typiquement, un des trucs que j'ai appris en Nouvelle-Zélande et que j'adore, c'est que je garde systématiquement un maillot des, on va dire, top players que j'opère. Et franchement, ça, c'est sûr, c'est un petit kiff de regarder les maillots. Enfin, ça, c'est sûr, hein, mais c'est, bon, c'est pas ce qui me fait me lever le matin, mais c'est vrai que c'est un plus.
Ah, bien sûr.
C'est sympa, quoi.
Ok. Donc, ça, ça serait un bel indicateur si c'est arrivé de plus en plus. J'avais une question sur comment tu fais pour progresser, mais tu y as déjà répondu. Je pense qu'en effet, vous balancez beaucoup entre de la pratique et du suivi scientifique, de la publication, ça c'était très clair. Je voulais savoir qu'est-ce qui te rendait optimiste d'un côté et pessimiste de l'autre sur ton activité et sur le secteur que tu adresses.
Alors optimiste, bah c'est, je me répète, hein, mais c'est vraiment les publications. Enfin moi je trouve que aujourd'hui on a une spécialité qui est ultra dynamique. Enfin vraiment et notamment en France. Enfin hein, je dis pas la clinique du sport, hein, mais en France, on a une école d'orthopédie qui est vraiment top niveau. Hein. Enfin, vraiment, honnêtement, et je dis pas ça la clinique du sport. Hein, c'est aujourd'hui, on a notamment à Lyon, à Bordeaux, des équipes extrêmement dynamiques avec des publications d'une qualité énorme. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'orthopédie française a vraiment une place de choix dans le monde. Et encore plus dans le traitement des instabilités, on a des techniques dans l'instabilité d'épaule, l'instabilité de cheville et l'instabilité du genou qui sont reconnues comme vraiment ce qui se fait de mieux dans le monde. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment pour moi un motif de fierté hein, pour l'orthopédie française parce que c'est vraiment notable. Hein. Sur le côté pessimiste maintenant, alors il y a un axe hein, qui est pareil où j'ai récemment fait une présentation dessus où c'est assez intéressant, c'est où on est par contre l'orthopédie française, on est très 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 en retard. Enfin, c'est même plus que l'orthopédie française, c'est la société française, on est très en retard. C'est la notion de prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a typiquement donc le bon exemple hein, encore une fois, hein, bon, c'est parce que je me suis formé là-bas, hein, mais c'est la Nouvelle-Zélande. Hein. La Nouvelle-Zélande, ils ont un système de santé qui est très proche du nôtre avec une notion, enfin, c'est pas la sécurité sociale, ça s'appelle, c'est ACC, ça s'appelle. Enfin, bon, en gros, quand vous cassez le croisé, globalement, vous soumettez un dossier à l'ACC et l'ACC prend en charge votre chirurgie et votre rééducation. Et en fait, ACC, ils sont un peu plus dynamiques que ce qu'on a en France, la sécurité sociale. Mmh. Et en fait, ils ont assez rapidement, ils se sont rendu compte que la prise en charge du ligament croisé antérieur, ça leur coûtait une petite fortune. Hein. On parle de à peu près 50 millions de coûts directs, c'est-à-dire de coûts de santé, et 100 millions de coûts indirects, c'est-à-dire en gros je ne produis plus de ressources. Mmh. Je ne suis plus au travail, etc. Donc, ça faisait quand même 150 millions de dollars néo-zélandais par an. Et donc, ils se sont dit, c'est quand même un problème. Et donc, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que depuis 20 ans, il y a plein de programmes de prévention qui existent, hein, qui sont démontrés scientifiquement et qui, aujourd'hui, sont capables. Donc, on parle de, à peu près, c'est de l'ordre de 3 échauffements de 15 minutes par semaine. Et en faisant 3 échauffements de 15 minutes par semaine, donc bon, quand vous avez un bon niveau sportif, on peut se dire que c'est pas non plus excessif. Mmh. Et ben quand on fait 3 échauffements de 15 minutes par semaine, Et bah, quand on regarde les analyses, alors on parle de plusieurs des cohortes, de plusieurs milliers de patients, hein, il a été montré que ça permettait de diminuer le risque de rupture du croisé antérieur de l'ordre de 50% dans la population générale et jusqu'à 67% chez les filles, donc qui sont plus à risque de rupture du croisé. Donc c'est vraiment, enfin, c'est un bénéfice monstrueux. Et pourtant, c'est pas du tout popularisé et très peu de gens le font. Et donc, excusez-moi. Et donc, ici, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va mettre en place des systèmes justement d'échauffement. Hein. Donc, ils ont ciblé les sports à risque, que sont principalement donc le football, le rugby à 13 et un sport très de là-bas qui s'appelle le netball, qui est une sorte de basket un petit peu arrêté. Et donc, ils ont dit, on va développer un système d'échauffement basé donc sur ces publications, qui s'appelle le ACC Sports Smart Warm Up. Et en fait, ils se sont aperçus que le coût de mise en place versus ce que ça leur faisait économiser était absolument monstrueux. C'est-à-dire que pour tout dollar dépensé, ça leur permettait d'économiser quasiment 9 dollars de coût de santé publique.
D'accord.
Donc c'est vraiment... on est sur un système de santé qui est très proche du nôtre, avec des bénéfices monstrueux. En plus de ça, on parle en Nouvelle-Zélande, il y a à peu près 3000 ruptures du croisé par an, contre, on a dit, 65 000 à peu près en France. Hein, donc, ça, si vous voulez, si tu veux, si ce qu'ils permettent d'économiser chez eux, nous, ça pourrait être vraiment encore mieux.
Bon, c'est pas la même population et culture.
Ouais, bien sûr, mais probablement que ça pourrait pas être exactement pareil, mais bien c'est sûr. Quand même, en tout cas, des axes, à mon avis, qui seront à développer dans le futur et qui doivent être approfondis.
Ok, super. J'ai une petite question, une petite dernière question avant de se quitter. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est l'actualité de l'écosystème sportif qui a attiré ton attention récemment ? Pas forcément sur la médecine, mais quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, une actualité qui, selon toi, dit un peu ce que va devenir le monde du sport ?
C'est une bonne question. En tout cas, pour l'instant... Tout ce qu'on voit, c'est que nous, on a une perte d'activité majeure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a forcément il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de blessures, hein. Dû effectivement au Covid. Hein. J'appréhende, c'est un bien grand mot, parce que après, je suis quand même là pour travailler, mais je pense que la reprise sportive va être, on va dire, assez dangereuse, parce que aujourd'hui, on voit quand même qu'on a pas mal de gens qui sont un petit peu hors de forme, qui ont complètement perdu leur activité sportive, avec d'ailleurs un retentissement psychologique assez fort, hein, chez certains. Et du coup, moi, je pense que la reprise, quand on va autoriser la reprise, notamment du sport collectif, il risque d'y avoir un petit peu de casse, quoi.
Ouais, ok. Vous préparez.
Exactement.
Cool. Dernière question quand même. Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais entendre, une ou deux, trois personnalités que tu aimerais entendre dans un format... comme celui-ci ou sur Dream Team en général ? Tu as réfléchi à cette question ?
Alors, qui est-ce que j'aimerais voir dans un format comme ça ? Non, je t'avoue, je n'ai pas trop d'idées. Peut-être un médecin de club, hein, ça pourrait être intéressant. Hein. Un médecin de club pour avoir le versant un petit peu plus médical de l'approche chirurgicale que j'ai eue, ça pourrait être intéressant.
Très bien, j'essaierai de continuer ma fibre médicale que j'entame avec toi.
Bon. Si tu as besoin de contact, je te donnerai ça avec plaisir.
Cool, merci beaucoup Alex. Eh bien, merci. À très bientôt.
Ouais.
Salut.
Merci beaucoup.
J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.